Salut Amandine, salut René.
Bonjour Marc.
Bonjour Max.
Alors on est ici pour parler d'un nouveau milieu. La dernière fois on avait parlé avec vous de la bande sahélienne. On avait vu que le Cameroun c'est un peu le pays, j'allais dire des quatre saisons. C'est une mini-Afrique, on avait vu ça avec toi René. C'est-à-dire qu'il y a des zones de désert, il y a des zones de forêt, il y a des zones de savane. Il y a évidemment beaucoup de biotopes différents. Et dans cet épisode on va parler d'un biotope très particulier, en l'occurrence la mangrove. René, est-ce que tu peux nous expliquer en gros ce que c'est que la mangrove?
La mangrove, c'est cet écosystème forestier composé de ces arbres qui s'appellent les palétuviers, qu'on retrouve entre la mer et le continent.
C'est quoi l'état de la mangrove au Cameroun? C'est quoi ses spécificités?
Le Cameroun a une estimation de perte de couverture végétale de 12 millions d'hectares. Et l'objectif de la stratégie nationale de développement à l'échelon 2030 est de restaurer ces 12 millions d'hectares. Parmi ces 12 millions, la mangrove occupe environ 68 000 hectares. Et cette mangrove-là est fortement dégradée. On a une perte de l'ordre de 70 000 hectares en général. On a environ 1 % de mangroves qui sont perdues chaque année et environ 6 % dans la seule zone de Douala. Douala, qui est la capitale économique du Cameroun, qui a environ 4 millions d'habitants, c'est une zone du littoral, et qui est très menacée par les eaux, par le débordement du niveau de la mer, par les inondations liées aux grandes pluies. Et si rien n'est fait, ces populations-là vont être noyées, leurs activités économiques vont s'envoler.
Argentine. Amandine, est-ce que tu veux ajouter quelque chose?
Les écosystèmes de mangrove au Cameroun, on va retrouver deux espèces différentes hein, qui sont surtout présentes. Le rhizophora, dont on avait déjà parlé sur l'Indonésie. Donc on a notamment des palétuviers rouges qui sont très présents au Cameroun. Mais on a aussi des avicennia qui font partie de l'écosystème de mangrove camerounais. Et au-delà de ces espèces végétales, on va retrouver beaucoup d'espèces animales.
Oui, parmi ces espèces animales, on a beaucoup plus les chevrotins aquatiques. On a des sitatunga qui sont des antilopes. Mais beaucoup plus aussi, on peut retrouver des tortues marines qui viennent pour pondre. On a également le lamantin, qui est une espèce vraiment caractéristique des zones de mangrove, sans oublier des oiseaux, des crabes qu'on retrouve dans ces zones-là qui viennent non seulement pour se nourrir, mais pour se reproduire aussi.
René, parle-nous de ce chevrotin aquatique qui est surnommé la biche cochon, qui est tout petit. Et qui est surnommée comme ça parce qu'elle n'a pas les sabots habituels des antilopes. Elle a des pieds qui sont palmés déjà. Dis-nous en plus sur ce petit animal étrange.
Oui, le chevrotin aquatique, c'est une sorte de petite antilope. On peut aussi y retrouver des petites rayures en pontier sur les flancs qui ressemblent aussi au chevreuil que vous avez ici en France. Ils ont des pieds un peu particuliers, adaptés aux zones humides, aux marécages. Ce sont des pieds un peu palmés pour s'adapter au niveau de l'eau, qui mange beaucoup plus du poisson. C'est curieux qu'on ait des antilopes qui se nourrissent du poisson.
Une antilope qui mange du poisson.
Donc, ils sont aussi, on peut dire, omnivores. Ils mangent des herbes et du poisson.
Ah oui. On est sûr qu'ils mangent du poisson. Alors ça, c'est la première fois que... Donc, ils sont un peu carnivores.
Oui, ils sont carnivores. C'est pour ça qu'ils sont des chevrotins aquatiques.
Mais on a très peu de data sur l'espèce parce qu'elle est très peu étudiée. Il n'y a pas eu de budget spécifique pour l'étudier. Mais on pense qu'elle serait en train de disparaître à vitesse grand V sans avoir de data aujourd'hui.
Il y a aussi une autre espèce emblématique du coin, c'est le singe bleu.
Oui, ce sont des singes qu'on retrouve dans les zones de mangrove qui vivent beaucoup plus au-dessus des palétuviers et qui consomment des fruits dans ces zones-là, parce qu'il faut dire que ces zones de mangrove ont des parties terrestres également et des parties beaucoup plus inondées, où on trouve plus des palétuviers. Donc on les trouve dans ces zones-là et ces singes-là sont beaucoup chassés hein, de par leur viande, qui sont très bien à manger, parce qu'il faut dire au Cameroun qu'on a trois espèces qui sont beaucoup plus chassées du fait de la qualité du goût de leur viande. Il y a ces types de singes-là. On a aussi des hérissons, les porcs-épics, et des pangolins.
Oui, je veux bien que tu me dises un mot, même s'il n'appartient pas à cette zone, sur le fameux pangolin géant. Je la fais courte et claire, il y a 8 espèces de pangolins dans le monde, il y en a 4 en Asie, 4 en Afrique, et le plus grand pangolin du monde, il est dans ton pays. Alors, je répète qu'il n'est pas trop dans ces régions dont on parle dans cet épisode, mais je voulais quand même pas rater l'occasion de dire un mot sur le pangolin géant, qui est malheureusement vu que les espèces asiatiques ont été complètement ratiboisées pour la pharmacopée asiatique et chinoise, ben maintenant le trafic s'est déporté du côté de l'Afrique. Les gens, depuis la crise du Covid, hein, savent que le pangolin est le mammifère le plus braconné du monde. Loin devant les éléphants, loin devant beaucoup d'autres animaux. C'est pour ça que c'est un animal célèbre, en plus du fait qu'on l'ait soupçonné de nous avoir refilé le Covid, et ce dont il a été dédouané par la suite.
L'Ostimutia gigantea est un gros pangolin qui pèse près de 30 kg, hein, de l'ordre de 140 à 180 cm. C'est un géant parmi ces pangolins-là qu'on retrouve plus dans la zone forestière bimodale au Cameroun.
Je rappelle, pardon de t'interrompre, ne perds pas ton fil, que le bimodal, c'est là où il y a quatre saisons. Hein. Deux mini-saisons pluie-sèche et deux grosses saisons pluie-sèche. Pardon, vas-y.
C'est cela. Et donc, ce pangolin-là est très prisé de par la qualité de sa viande, mais surtout par ses écailles. Il faut dire que ça comporte environ 466 à 664 écailles sur le corps. Et ces pangolins-là vont être braconnés et les écailles qui vont traverser au niveau de l'Afrique du Nord et se retrouver soit en Asie, soit en Europe pour en faire beaucoup de choses.
Quelques fun facts sur le pangolin, sur ce pangolin. Déjà, c'est un des rares mammifères bipèdes. On ne s'en rend pas compte, mais il marche souvent que sur ses pattes arrière. Il a évidemment la capacité de se rouler en boule, c'est de là que vient son nom. En malais, panguling, ça veut dire l'entortillé, l'entortilleur. J'ai déjà vu des lions, pour le coup, essayer d'ouvrir un pangolin, ils n'y arrivaient pas. Enfin, dès qu'il forme une boule, c'est terminé. Il a effectivement une langue en forme d'immense spaghetti qui lui sert à aspirer des fourmis. Il en mange beaucoup et il est très important, le pangolin, pour réguler les fourmis. Là où il n'y a plus de pangolin, ben, il y a trop de fourmis, donc il y a un déséquilibre qui se crée. Et c'est effectivement un mammifère très particulier. C'est le seul mammifère à écailles du monde. Énorme, et à ce titre, il est très connu. Tu voulais ajouter quelque chose,
René ? Non, juste ajouter que le fait pour le pangolin de s'enrouler est un moyen de défense et c'est un moyen de fuite. Parce que sur des pentes, le pangolin, lorsqu'il s'enroule, se transforme en une boule comme le ballon.
Le pangolin fait boule de neige.
Oui, ça fait boule de neige et ça roule plus vite. En ce moment-là, ça descend des pentes très rapidement en faisant juste la boule. C'est difficile à attraper.
Énorme ce que tu racontes, énorme. Amandine, pour être concret, ce que fait Planète Urgence là-bas s'appelle CAMER. Évidemment, on est au Cameroun, ça s'appelle CAMER. C'est encore un acronyme. Qu'est-ce que ça veut dire? Et en résumé, qu'est-ce que vous faites?
Alors, sur le projet CAMER, qui s'appelle Cameroon Mangroves Ecosystem Restoration and Resilience, on va restaurer les écosystèmes de mangroves. Donc là où la mangrove a été dégradée, et elle a été fortement dégradée sur ces écosystèmes, on va réintégrer ces propagules qui vont soit grandir en pépinière, soit en plantation directe.
Les propagules, je traduis ce que tu dis, ce sont ces espèces de fléchettes qui sont des mini-arbres qui se plantent dans la vase, et c'est un mode de production très particulier du palétuvier. Ne perds pas ton fil, c'était juste pour préciser ce qu'était une propagule.
Exactement, et ce qui est important du coup sur cette restauration, c'est de regarder zone après zone, quels sont les enjeux de salinité de la zone, où est-ce qu'on doit mettre quelle espèce. On a typiquement la Vicenia qui ne va pas être au même endroit que le Rhizophora dont on parlait tout à l'heure. Donc on a tout un travail de restauration. L'enjeu, c'est d'aller jusqu'à 1000 hectares de restauration. Donc ça serait le plus grand projet que le Cameroun ait jamais porté en termes de restauration de mangroves. L'enjeu, comme le disait René, c'est d'aller bien au-delà de ça. Planter des arbres, c'est bien. Qui reste dans le temps, c'est mieux. Et qui soit du coup un outil intéressant de survie ou de vie pour les communautés, c'est essentiel. Et donc pour ça, on va travailler sur la cause de la déforestation, qui est la coupe de bois, notamment pour du bois énergie, puisque le poisson qui est fumé au bois de mangrove a un petit goût fumé très particulier, qui est très valorisé sur les marchés à Yaoundé. Donc on va travailler avec les femmes, avec les acteurs en local, pour avoir des foyers améliorés, pour utiliser moins de bois de mangrove, et que ça soit potentiellement aussi d'autres bois. Mais on va aussi travailler sur des alternatives économiques, sur de l'écotourisme, sur du maraîchage, et on va travailler sur les élevages d'escargots, par exemple.
Effectivement, ce projet n'est pas seulement de la plantation, mais de la sécurisation de ces plantations-là. C'est pour ça que le projet a compté mettre en place des forêts communautaires. Ça veut dire que nous rétrocédons avec l'État, dans un processus bien clair, encadré par la loi, ces portions de forêt-là aux communautés qui devient leur forêt pendant 25 ans avec des plans de gestion bien clairs, avec les objectifs qui seront rétrocédés. Et ça fait que les communautés vont bien prendre soin et que personne ne viendra les couper parce que ça appartient à une communauté bien précise. Je pourrais revenir aux arbres, une forêt sacrée aussi au Cameroun.
Oui, vas-y.
Oui. Au Cameroun, les sites où les forêts sacrées ont des initiés ne peuvent entrer dans la forêt sacrée que ceux qui sont initiés. D'où même la difficulté au Cameroun de mettre en œuvre des projets de plantation d'arbres. Parce qu'il faudra une activité de formation des initiés à la plantation de l'arbre pour être sûr qu'il n'y a que eux seuls qui vont aller planter ces arbres-là, dans ces forêts-là, parce que n'y entre pas n'importe qui.
C'est une difficulté supplémentaire.
Oui, c'est une difficulté supplémentaire dans les projets de plantation dans les forêts sacrées. À chaque espèce, par exemple, correspond une pratique. Vous allez prendre, par exemple, l'espèce qui s'appelle le Bubinga. C'est un grand arbre de près de 40 mètres de hauteur. C'est une espèce très mythique. Lorsqu'on a juste un bout de bois qu'on peut garder au-dessus ou bien au chevet du lit, ça empêche les sorciers de venir à la maison. Tu ne peux pas faire de mauvais rêves.
Le mauvais œil.
Oui. Chez nous, le respect de l'adulte est très mis en avant. Vous ne pouvez pas vous asseoir dans la même salle que l'adulte. Donc, dès qu'un adulte entre dans une salle, tu dois rapidement céder la place ou bien même quitter la salle pour nous.
Ok, voilà ce qu'on pouvait dire dans cet épisode qui était dédié aux mangroves. J'aimerais peut-être qu'on le finisse. Il y a un des animaux phares dont on a très peu parlé. J'aimerais que tu m'en dises quelques merveilles. C'est le fameux lamantin. On pourrait peut-être clore cet épisode sur le lamantin. C'est un sirénien. C'est un joli nom de famille. Les siréniens, c'est des cousins assez proches des éléphants. Il y a deux espèces de siréniens. Il y a le dugong. Chez vous, c'est le lamantin.
Ces lamantins-là ressemblent un peu plus petits à des éléphants de mer qui viennent se nourrir, qui vivent, qui viennent se reproduire dans les zones de mangroves. Les mangroves sont des zones de refuge pour ces espèces-là qui aujourd'hui sont classées par l'UICN parmi les espèces menacées.
Les lamantins qu'on surnomme la vache marine et qui mangent des algues et des herbes marines.
C'est cela.
Mais du coup, vu qu'ils ont peu de valeur nutritive dans les plantes aquatiques, ils sont obligés d'en manger beaucoup. On estime qu'ils en consomment à peu près 30 kilos par jour d'algues marines.
Oui, ouais, ouais, exact. Et on rappelle que ces animaux ont donné naissance à la légende des sirènes. C'est pour ça que leur nom de famille, c'est les siréniens. Voilà, ça paraît difficile à confondre, mais ça a été fait. Voilà ce qu'on pouvait dire dans cet épisode qui était dédié aux mangroves, dans ce cycle africain, dans notre série africaine dédiée elle-même au Cameroun. Merci Amandine, merci René. On se retrouve très vite pour la suite et la fin de cette discussion. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de nous. Salut.
Merci Marc.
Merci Marc, bye bye.
Pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre, tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant. Et la seule façon, c'est de recommencer au commencement. Tu vois ce que je veux dire ?